Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, dans quelques secondes le journal, 19h15, la carte blanche, avec ce soir le patron de presse, Franck Hannès, qui viendra nous présenter son nouveau magazine sur le futur. Très réussi comme toujours, ça s'appelle Big Bang. 19h20, le grand débat du Club des Idées sur les diplômes. Les jeunes Français n'ont jamais fait autant d'études, bac plus 5, parfois plus, mais pour quel résultat? Le sacro-saint diplôme est-il toujours le sésame pour trouver du boulot? Et on verra aussi pourquoi l'apprentissage qui marche si bien chez nos voisins européens est toujours dévalorisé, malheureusement, chez nous en France. On en parlera avec nos invités et avec vos témoignages. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
L'enfant n'ayant pas été retrouvé, tout élément permettant la localisation de l'enfant ou de faire avancer l'enquête doit être communiqué sans délai.
L'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges, sa grand-mère a été bernée par trois ravisseurs. La mère de la petite fille pourrait également être impliquée, son profil est inquiétant.
Faut-il organiser un hommage national alors que la France s'apprête à franchir la barre des 100 000 morts du Covid? Emmanuel Macron préfère attendre malgré la pression.
Les concours, eux, n'attendent pas et les candidats sont obligés de s'y présenter, parfois la peur au ventre et parfois même quand ils sont positifs au Covid.
Au sommaire également ce soir, une valorisation à 65 milliards de dollars pour Coinbase, cette société américaine qui surfe sur le succès des crypto-monnaies.
Et puis Didier François viendra nous parler de la course aux armements autour du pôle Nord. La Russie aurait mis au point une arme terrifiante.
La météo avec Anissa Haddadi, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Les gelées matinales seront toujours présentes demain matin.
Oui, avec moins 5 à 8 degrés demain. C'est en Auvergne et dans le centre de la France que les températures seront les plus froides encore demain matin. Dans l'après-midi, les températures sont stationnaires, ça ne grimpe pas et reste toujours en dessous des normales de saison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et dans les Vosges, près de 24 heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement, toujours aucune nouvelle de la petite Mia, 8 ans.
Arthur Elmbaché, on ne sait pas où se trouve l'enfant, mais on en sait plus ce soir sur le déroulé de son enlèvement par trois hommes.
Un enlèvement sans violence, soigneusement préparé. Voilà ce qui s'est passé ici hier matin, détaillé tout à l'heure par Nicolas Heitz, le procureur d'Épinal. Les trois hommes qui ont kidnappé la petite Mia ont mis en œuvre un scénario bien ficelé.
Ils se présentaient comme des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, munis de papiers à l'entête du ministère de la Justice. Ils mettaient en confiance cette dame, en lui donnant d'ailleurs le nom d'éducateur qui existe réellement, et expliquait devoir conduire l'enfant à un rendez-vous dans leurs locaux à midi pour qu'elle y rencontre sa mère. Prise d'une mauvaise intuition, pour reprendre ses termes, la grand-mère vérifia ensuite auprès du service qui lui indiquait qu'aucun éducateur ne devait se présenter au domicile ce jour-là.
La mère de la fillette, une jeune femme de 28 ans, est elle aussi activement recherchée. Le contexte familial est lourd. Des violences, un refus de scolarisation de la petite, une forme de marginalisation, des projets de tout plaquer, partir en camping-car seule avec sa fille pour passer, comme elle l'a dit récemment aux services sociaux, en dessous des radars de la société. C'est tout cela qui avait abouti en janvier dernier au placement de la petite Mia chez sa grand-mère. Les Poulières, Arthur Elmbaché, Europe 1.
La déception des proches de Sarah Halimi, cette sexagénaire juive défenestrée en 2017 à Paris par l'un de ses voisins. La Cour de cassation estime en effet aujourd'hui que son meurtrier est irresponsable pénalement. Sur la base de trois expertises, il ne sera donc pas jugé.
La France devrait franchir dans les prochaines heures la barre des 100 000 morts du Covid. Malgré des signes encourageants, nous n'avons toujours pas passé la troisième vague, a prévenu aujourd'hui le porte-parole du gouvernement.
Et alors que certaines voix réclament un hommage national aux victimes, cette question manifestement embarrasse le gouvernement, Louis Dragnel.
Oui, et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en a parlé à la mi-journée. On l'écoute.
Évidemment qu'il y aura un temps d'hommage, de deuil pour les victimes de la Covid. Le président a déjà eu l'occasion d'en parler dans les conseils des ministres que nous avons tenus. Ce moment viendra, nous sommes aujourd'hui engagés et toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie avec, encore une fois, la stratégie de freinage et le développement de la vaccination. Mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la nation.
Le message est clair, il y aura bien un hommage pour les morts du Covid, mais ce n'est pas pour maintenant, pour deux raisons. Tout d'abord, Emmanuel Macron n'a aucune envie de trop s'attarder sur ce chiffre des 100 000 morts du coronavirus. Un bilan humain qui sonne comme un échec. D'ailleurs, Anne Hidalgo, maire de Paris et possible candidate à la présidentielle, vient de décider d'instaurer une journée d'hommage à tous les Parisiens morts du Covid. Hors de question donc pour le président de suivre l'initiative d'une potentielle rivale et surtout de donner des angles d'attaque à ses détracteurs. Ensuite, la deuxième raison, la bataille contre la pandémie n'est pas terminée et un ministre me l'a dit, il serait indécent qu'on organise une cérémonie alors que des milliers de Français vont encore mourir. Donc, pas de discours ni de vidéo du président. À l'Élysée, on préfère se concentrer sur l'espoir et la sortie de la crise. D'ailleurs, demain matin, Emmanuel Macron se rendra à Notre-Dame de Paris 2 ans après l'incendie pour louer un symbole de l'esprit de résilience des Français et il recevra en fin d'après-midi ses principaux ministres pour étudier les protocoles de réouverture des lieux accueillant du public.
Merci Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Alors du côté des vaccins maintenant, ce nouveau coup dur avec l'annonce aux États-Unis de la suspension de Johnson & Johnson après de rares cas de caillots sanguins sévères.
Son déploiement dans l'Union européenne est retardé dans l'attente d'une décision de l'Agence européenne du médicament, sans doute la semaine prochaine. Vous savez que la France comptait beaucoup sur ce vaccin pour accélérer sa campagne. Elle a d'ailleurs déjà reçu les premières doses. Ce vaccin sera réservé, en tout cas comme l'AstraZeneca, aux plus de 55 ans.
Oui, justement, à propos de l'AstraZeneca, le Danemark renonce définitivement à l'utiliser. Il est le premier pays d'Europe à prendre une telle décision.
Et ce, malgré les avis du régulateur européen et de l'OMS, qui sont favorables à son utilisation.
En France, malgré la situation sanitaire, les concours, notamment ceux des BTS ou des classes préparatoires aux grandes écoles, sont maintenus en présentiel.
Des dizaines d'élèves regroupés alors qu'ils révisent depuis des mois tout seuls chez eux, l'image est déroutante. Et pourtant, ces élèves n'ont pas le choix. Virginie Riva.
Le règlement est clair, même positif au Covid, les élèves de BTS qui ne se présentent pas à leur épreuve ont un zéro, non éliminatoire mais quasiment irrattrapable. Ridouane est en BTS à La Rochelle, il demande avec son collectif le passage en contrôle continu.
On est en confinement là en ce moment, mais on va nous dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller aux examens, vous allez être 1000 dans des lycées, dans des hangars. Dans...
Mais vous, si vous êtes positif, est-ce que vous irez quand même à votre examen?
Ah bah personnellement, j'y vais. Je suis obligé, j'ai passé 2 années à travailler, à bosser mon BTS.
Les étudiants du Gobillard, professeurs en classe prépa, eux sont moins inquiets. Mais même s'ils sont malades, ils se présenteront également à leur concours d'école de commerce. Ils en ont même parlé ensemble.
Les étudiants aujourd'hui ne savent pas s'ils pourront repasser le concours si jamais ils sont malades là, au mois d'avril ou s'ils seront condamnés à le repasser un an après. C'est sans doute une des raisons qui fait qu'ils se présentent quand même s'ils sont malades.
À l'entrée des salles, pas de prise de température ni de test PCR. Dans certains centres d'examen, une salle Covid a été prévue pour ceux qui se sentiraient mal ou auraient des symptômes durant les épreuves.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Emmanuel Macron était cet après-midi à Reims en visite au CHU pour parler de la santé mentale des plus jeunes particulièrement affectés par le Covid. Il annonce la mise en place d'un forfait psy pour les enfants déprimés avec 10 séances prépayées chez des psychologues en ville pour tous les enfants de 3 à 17 ans activables tout au long de cette crise auprès de psychologues identifiés sur une plateforme dédiée. Une partie de la dette pourrait être annulée pour certaines entreprises fortement touchées par la crise sanitaire. Au cas par cas, c'est une annonce ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Europe 1, Julien Bugier.
19h07, restez avec nous dans quelques secondes. On vous parle de cette entrée en bourse absolument fracassante qui confirme l'euphorie autour du fameux Bitcoin.
Et puis les Russes ont-ils vraiment mis au point une torpille qui provoque des tsunamis atomiques?
A tout de suite. La suite du journal, on vous parle de cet événement, l'événement le plus attendu en bourse depuis l'entrée de Facebook, celle de Coinbase, la principale plateforme de transactions de crypto-monnaies aux États-Unis.
Oui, vous savez qu'on vous parle régulièrement des bitcoins hein, sur Europe 1, cette monnaie virtuelle dont le cours s'envole. Aurélien Fleureau, c'est l'illustration parfaite hein, de l'engouement autour de ces crypto-monnaies.
Oui, et cette introduction en bourse, c'est le symbole que les crypto-monnaies s'installent. La plateforme a clairement profité de l'ascension fulgurante du Bitcoin, dont le cours est passé en un an de 6 500 à plus de $62 000. C'est la plateforme qui a démocratisé l'accès à ces crypto-monnaies, mais c'est aussi celle qui applique les frais de transaction les plus élevés du marché, avec un fonctionnement très simple et donc un succès spectaculaire, comme l'explique Grégory Raymond, journaliste spécialiste des crypto-monnaies.
Ça fonctionne un peu comme une banque en ligne classique, on peut acheter et vendre assez rapidement. Et Coinbase, ben aujourd'hui, c'est aussi important qu'une banque traditionnelle. Et d'ailleurs, il y a un chiffre très intéressant. L'action devrait valoir à peu près $340 au moment où on va pouvoir en acheter. Ça va valoriser l'entreprise autour de $100 milliards. Et c'est quasiment ce que pèse Goldman Sachs, une institution très respectée aux États-Unis et qui a plus de 150 ans. C'est assez fou.
Coinbase, ce sont 56 millions de clients dans le monde. Alors, ça peut faire rêver quelques banques. Et la plateforme est donc devenue quasi incontournable avec la moitié des utilisateurs de crypto-monnaies qui y sont inscrits.
Précision signée Aurélien Fleureau du service Écho d'Europe 1.
L'actualité ce soir, c'est également la disparition du roi des escrocs.
Bernard Madoff est mort en prison à 82 ans. Il était effectivement l'un des escrocs les plus célèbres du 21e siècle, arrêté en plein cœur de la crise financière mondiale en 2008 pour avoir réalisé une gigantesque escroquerie de type pyramide de Ponzi. Vous savez, il piochait dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou pour rembourser des investisseurs plus anciens à travers une fausse banque d'affaires.
Les Russes ont-ils vraiment mis au point une torpille nucléaire capable de provoquer des mini-tsunamis radioactifs? C'est la chaîne CNN qui l'affirme en citant plusieurs spécialistes militaires américains.
Et on en parle bien sûr avec notre spécialiste des affaires internationales, comme tous les soirs, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
C'est terrifiant cette histoire, on parle là d'un nouveau type d'armement incroyable, très effrayant.
Oui, alors c'est sûr que présenté comme l'a fait CNN, le scénario est tout à fait apocalyptique, puisque leur hypothèse la plus pessimiste, ce serait qu'on aurait une torpille portant une ogive nucléaire de plusieurs mégatonnes capable de submerger le littoral américain en provoquant une série de vagues radioactives qui rendraient les villes côtières des États-Unis inhabitables pendant des décennies. Alors à ce stade, attention quand même, on n'a pas de certitude sur les capacités réelles de cette arme qui reste à l'état de projet en Russie sous le nom de code Poséidon 2M39. Et selon la presse russe spécialisée, les études auraient été lancées en 2015 et elles pourraient entrer en phase de test cette année avec la construction d'un prototype démonstrateur qui prendrait d'ailleurs plutôt la forme d'un drone sous-marin de reconnaissance côtière dans un premier temps, avec effectivement à terme la possibilité d'emporter une charge atomique. Donc pas de danger imminent, d'autant que ce nouvel engin viendra compléter une panoplie nucléaire déjà bien fournie et dont les effets seraient absolument dévastateurs si par malheur la dissuasion venait à échouer, sachant que le principe de l'arsenal atomique, c'est justement qu'il soit suffisamment dissuasif, donc qu'il fasse suffisamment peur pour ne pas être utilisé. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est la relance de la course aux armements conventionnels, la Russie ayant entrepris de déployer des nouveaux systèmes très performants, comme ce robot tueur de chars qui s'appelle Ouran 9 et qui a été présenté la semaine dernière en exercice opérationnel. Il y a aussi l'avion de chasse furtif autonome ultra rapide, le Sukhoi 57, doté de missiles hypersoniques, ou bien des radars comme le Résonance qui permettent de voir au-delà de l'horizon. C'est incroyable, et ils ont été déployés tout le long du cercle arctique.
Alors, la militarisation de l'Arctique est d'ailleurs le grand sujet d'inquiétude des militaires américains.
Absolument, au point que le Pentagone a décidé de sortir du bois en début de semaine et de faire part de ses craintes, puisque des images satellites très récentes montrent un niveau élevé de déploiement de l'armée russe jusque sur la banquise. Le mois dernier, il y a une image absolument incroyable qui a été mise en place par l'armée russe. 3 sous-marins nucléaires qui font surface dans la banquise au pôle Nord. Eh bien, c'est une décision stratégique qui a été prise par Vladimir Poutine en 2016, qui consiste à s'assurer du contrôle total sur cette nouvelle voie maritime qui est en train de se dégeler à la faveur du réchauffement climatique et qui va finir par relier l'Asie à l'Europe en longeant la mer de Barents et la péninsule de Kola. C'est un enjeu absolument majeur, tant sur le plan économique que militaire, pour lequel la Russie, naturellement, a pris un très sérieux coup d'avance.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
Lui, on espère qu'il sera moins terrifiant. L'adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions, Borussia Dortmund ou Manchester City, les deux clubs s'affrontent ce soir, encore quelques heures de patience. Et puis, l'autre match de la soirée, c'est Liverpool contre le Real Madrid.
On a fini. Merci Isabelle. C'était le journal d'Isabelle Millet. La météo avec Anissa, une journée plus nuageuse sur la moitié est. Voilà ce qui nous attend demain.
Oui, avec de l'Alsace jusqu'à la Provence, une couverture nuageuse un peu plus importante que ces derniers jours et un peu plus importante que sur le reste du pays, avec d'ailleurs sur les reliefs du Jura, des Vosges et des Alpes demain après-midi, le retour de la neige à partir de 700 mètres d'altitude. En Provence aussi, le ciel sera couvert avec quelques petites averses. En Corse, le temps est agité. Et puis au nord, sur les Hauts-de-France en particulier, là nous aurons des giboulées demain après-midi. La bise souffle toujours sur la moitié nord. À l'ouest, rien à signaler. De la Bretagne jusqu'au Languedoc, le soleil brille généreusement. Moins 5 degrés à Montluçon demain matin, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à 3, moins 1 à Metz, un petit degré pour Paris, 4 à Bordeaux et 8 à Nice. Vous l'avez constaté, il fera encore froid. Dans l'après-midi, c'est stationnaire, ça ne bouge pas. Exactement comme aujourd'hui, avec 8 à 14 degrés sur la moitié nord et 13 à 18 dans le sud.
Et à Bastia ?
Et à Bastia, il fera 17 degrés.
Bien.
De tête. Hein.
Merci Anissa. Merci Anissa. On vous retrouve demain évidemment.
À demain.
À partir de 18h. 19h15, dans quelques secondes, le Club des Idées consacré ce soir au diplôme. À quoi servent-ils vraiment pour trouver un emploi? D'abord la carte blanche avec ce soir le patron de presse, Franck Hannès.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Franck Hannès.
Bonsoir.
Alors c'est vrai qu'on avait envie de vous recevoir, vous êtes le patron de presse des magazines Society et SoFoot notamment, et vous lancez un nouveau mensuel sur le futur, ça s'appelle Big Bang. D'abord en quelques mots, qu'est-ce que c'est?
Alors le concept c'est assez étrange, c'est que c'est un mensuel, dans le sens où il y a 12 numéros, mais en fait au lieu de le sortir tous les mois, on le sort en un seul numéro.
Oui.
C'est un almanach d'utopie souhaitable, c'est-à-dire que plutôt que d'envisager le futur dans ce qui pourrait être, on a préféré l'envisager dans ce qu'on aimerait qu'il soit. On a pris 12 thèmes qui se déclinent de mois en mois, mais qui sont tous reliés dans un seul almanach qui sort donc demain. Et c'est comme une série Netflix, on peut binger du coup les 12 numéros en une fois. On trouvait ça plus rigolo et plus sympathique. Et ça fait un gros pavé de 340 pages, assez succulent.
340 pages, on peut binger. Bon, on va en parler avec un thème notamment sur Marseille. Alors, vous dites quelque chose de fort intéressant. Vous dites vouloir créer l'actualité et non plus la suivre. Comment on fait ça?
Disons que la presse, si elle veut exister en 2021, il faut qu'elle fasse à chaque fois événement. Et faire événement, ça veut dire ne pas forcément commenter l'actualité existante, mais pouvoir créer sa propre actualité. Ça, c'est un peu le credo qu'on a pris avec SoPresse depuis quelques années,
oui,
qui marche plutôt pas trop mal, en tout cas on va pas s'en plaindre, et qui fait qu'aujourd'hui la presse a une raison d'être, parce qu'on peut pas courir après l'actualité, le temps d'impression, la circulation de l'information, c'est plein de freins au fait que la presse puisse être dans l'actualité permanente, donc il faut créer sa propre actualité.
Vous êtes modeste, hein, Franck Hannès, parce que ça marche plutôt bien, ça marche très fort même, car à l'heure où l'on dit que la presse va mal, vous, tout ce que vous lancez, ça marche du tonnerre. C'est quoi le secret?
Voilà, tout repose sur la façon dont on le fait. Si on a compris que la presse c'était un média événementiel, si on a compris que la presse, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est achetée par des lecteurs,
oui,
et des lectrices, on peut s'en sortir. Nous, on arrive à développer des modèles économiques de presse qui fonctionnent, qui reposent essentiellement sur l'achat. Et en fait, si on fait des bons magazines, j'ai tendance à penser que ça fonctionne. Et pour l'instant, on arrive à ne pas trop planter nos titres, voire plutôt à les rendre assez... Enfin, ils ont du succès, quoi.
Alors,
ça fonctionne bien.
Ouais. Alors, Franck Hannès, Big Bang, ça sort demain dans les kiosques. Un petit aperçu peut-être avec vous en avant-première, car c'est Marseille qui est en une. Pourquoi Marseille?
Alors, il y a... Ouais, la une principale, c'est Marseille, capitale de la France. Donc, on a travaillé sur qu'est-ce que serait le pays si Marseille était capitale de la France. Comment est-ce que ça se passerait? On raconte l'élection du premier maire musulman de Marseille. Donc il y a une sorte de reportage prospectif sur cette élection. Et après, il y a tout qui est décliné pour essayer de comprendre comment le pays changerait, et en mieux d'ailleurs, si Marseille était capitale de la France. Et après, il y a une douzaine de thématiques qui sont plus ou moins folles, plus ou moins incroyables, mais qui en tout cas donnent envie de repenser le futur et de ne pas être juste dans une logique d'actualité pandémique et de se dire que le présent va mal. Voilà. Comme dit souvent Gabriel Gauthier, qui a eu l'idée de ce magazine, rendez-nous l'an 2000.
Rendez-nous l'an 2000. Bon, en somme, vous faites un peu comme nous, Europe 1, vous allez écouter le monde changer, quoi.
Exactement. On va essayer même de l'anticiper.
Bon, c'est parfait. Merci infiniment, Franck Hannès. Ça s'appelle donc Big Bang et ça sort demain en kiosque. Bravo à vous, bravo à vos équipes et vive la presse.
Merci beaucoup.
C'était la carte blanche avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Le grand débat du Club des Idées. On va parler des diplômes. À quoi servent-ils vraiment pour trouver un job? A tout de suite. 19h21, alors ce soir dans le Club des Idées, grand débat sur l'avenir des jeunes. Beaucoup d'entre eux rêvent d'avoir un boulot, stimulant, valorisant évidemment, ils font souvent pour cela de longues études et qui parfois ne débouchent sur rien. Alors que vaut vraiment cette course au diplôme? Nos formations d'études supérieures sont-elles adaptées en somme au marché du travail? Les études c'est bien, mais à quoi ça sert? Et est-il toujours le sésame pour trouver un job? C'est un grand débat que l'on vous propose en partenariat avec le magazine Pour l'écho, et justement on en parle ce soir avec Stéphane Marchand. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur et rédacteur en chef du média pour l'Écho. C'est un mensuel et vous publiez donc au mois d'avril ce dossier absolument passionnant intitulé « Génération Covid, les jeunes diplômés à perpétuité ». En interrogation, en partenariat ouais. donc avec Europe 1. On en parle également avec Tom Chevalier. Bonsoir.
Bonsoir.
Chargé de recherche au CNRS et spécialiste des questions précisément de jeunesse en Europe. Et on en parle aussi avec François Sarfati. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Saclay et membre du Centre d'études de l'emploi notamment et du travail. Alors d'abord, Stéphane Marchand, est-il vrai de dire qu'en France, plus que les autres, on est dans une espèce de pression au diplôme permanent ?
Alors c'est vrai qu'on a, on accorde en France une importance considérable au diplôme et la conséquence de
plus
cette...
Plus qu'ailleurs.
Parce que nous ne sommes pas les pragmatiques dans l'esprit. Hein. Nous avons un sens aigu de l'élite et puis depuis une trentaine d'années, voire plus, on a entrepris une sorte de massification de l'éducation.
Oui.
L'idée étant très bonne d'ailleurs au départ, hein, puisqu'il s'agissait de donner au maximum de Français... la possibilité de faire des études et donc de trouver un job derrière. On a donc eu une massification des diplômes en espérant que ce serait une démocratisation. Démocratisation à la fois de la connaissance et démocratisation de l'accès à l'emploi. Malheureusement, ça ne marche pas. La massification n'a pas débouché sur une démocratisation.
Oui.
Et on constate que dans toutes les catégories d'emploi ou dans toutes les catégories d'études, eh bien finalement, dès que vous allez vers les études de grosse qualité et les emplois de bonne qualité, la proportion de gens aisés demeure la même.
Oui.
Et les catégories qui sont exclues, les catégories ouvrières, les catégories les moins aisées, ben, ne progressent pas.
Quand vous dites qu'il y a eu une erreur politique ou une erreur des pouvoirs publics, est-ce qu'on peut dire c'est un peu la gauche qui a porté ce discours-là, qui est de dire le sésame, ça doit être le diplôme. C'est vrai ça ? On entend ça parfois.
Alors la gauche a été certainement derrière ça, mais ne pensons pas en général que les libéraux sont hostiles à l'intervention de l'État dans l'éducation. Non, au contraire.
Oui.
C'est une des raisons pour lesquelles ils disent « là oui, l'État peut intervenir ». Mais ce qui est vrai, c'est que l'État français a mesuré deux risques, a comparé deux risques. Le premier risque, c'est de créer une frustration collective dans tout le pays parce que les gens n'arrivent pas à avoir des diplômes et des jobs. Et l'autre risque, c'est évidemment que les gens soient formés et l'impression qu'ils vont avoir des jobs et n'aient pas ces jobs. Cette frustration-là a été jugée moins grave. Et donc, la décision a été prise.
Alors, on va continuer d'en parler, évidemment. Tom Chevalier, peut-être un mot sur les chiffres pour corroborer ce qui vient d'être dit. C'est vrai que quand on les regarde, hein, ça confirme ce qu'a dit Stéphane Marchand. Le Graal, c'est d'être Bac plus 5. Si bien qu'en 10 ans, le nombre d'étudiants en Bac plus 5 en France a bondi de 75%.
Oui, c'est une réalité, le fait qu'il y a eu cette massification dont vous parliez, avec donc une élévation du niveau de diplôme et donc une course au diplôme le plus élevé pour pouvoir
se
positionner.
Mais est-ce que ça dévalorise le diplôme, cette course au diplôme ?
Alors, ça dépend ce qu'on regarde, puisque ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette course au diplôme, elle est liée au fait que si vous n'avez pas de diplôme, si dans cette file d'attente qui se crée pour accéder à l'emploi, vous êtes d'un niveau inférieur à celui qui est à côté de vous, vous allez moins accéder à l'emploi. Donc la grosse distinction qu'il faut avoir en tête, malgré les chiffres sur le Bac plus 5 par exemple, c'est la grosse distinction entre les jeunes qui vont être qualifiés, donc qui vont passer le bac, qui vont aller dans l'enseignement supérieur, et les jeunes qui vont être peu ou pas qualifiés.
Parce que
c'est vraiment cette distinction-là qui a...
Tom Chevalier, c'est le grand paradoxe quand même. J'ai commencé cette émission en disant à quoi servent les études, à quoi servent les diplômes. Évidemment, vous êtes en train de nous dire, plus on en a, plus on est à peu près sûr de trouver du travail. Mais on peut en avoir beaucoup et ne pas trouver de travail. C'est là où est le paradoxe.
Alors statistiquement, vous avez quand même beaucoup moins de probabilités, beaucoup moins de chances de ne pas accéder à un emploi si vous avez un niveau de diplôme élevé.
Ça dépend des diplômes et ça dépend des orientations.
Ça dépend des diplômes. Voilà. Si vous avez par exemple un diplôme de lettres par exemple, ben, votre insertion professionnelle va peut-être être un peu plus difficile que si vous avez un diplôme d'une fac de médecine par exemple. Donc il y a une différence de diplôme. Mais le niveau de diplôme est encore une fois absolument central. Plus vous allez être diplômé, plus vous allez être protégé du chômage et des emplois de mauvaise qualité.
Est-ce que c'est corrélé, question connexe, est-ce que c'est corrélé au niveau de rémunération ? Plus on a des diplômes, mieux payé on sera.
Oui. Oui, ça joue, encore une fois. Mais là aussi, il faut avoir en tête les différences de diplôme et les différences d'établissement.
On rentrera dans le détail des secteurs d'activité et des niveaux d'études, parce qu'évidemment, Bac plus 5, tout n'est pas égal. Hein. Ça dépend ce qu'on fait comme études, et ça dépend aussi ce qu'on cherche aussi comme métier, comme secteur d'activité. François Sarfati, peut-être un mot là-dessus en préambule. Est-ce que accumuler les années d'études, c'est encore une fois la garantie de l'emploi ?
Alors aujourd'hui, toutes les statistiques le montrent. Effectivement, y compris après 30 années de massification, de fait, le diplôme continue à être un rempart, un rempart contre la précarité. Et ce qui se note très bien, c'est le fait que les diplômés accèdent plus facilement à l'emploi, accèdent plus rapidement à l'emploi stable et accèdent également à des niveaux de rémunération supérieurs.
Oui.
Si on essaye maintenant de corréler le type de formation et le type et les niveaux de rémunération, en fait, ce qu'on observe, c'est que, évidemment, dans un certain nombre de filières, on parlait à l'instant des filières littéraires notamment, mais on pourrait prendre d'autres exemples au sein de l'université, tous ne débouchent pas avec le même niveau de rémunération, quelle que soit la filière. Et en fait, un des éléments de réponse à ça est très bien documenté dans la littérature statistique, c'est cette idée que les gens qui vont dans des filières plutôt littéraires vont se destiner à des métiers plutôt dans les services publics ou plutôt dans le secteur associatif, des secteurs qui sont moins rémunérateurs que les gens diplômés de banque et de finance, qui se dirigent plus naturellement vers la banque et la finance, qui sont des secteurs plus rémunérateurs.
Alors,
autrement dit, s'il y a une corrélation, elle est claire entre le fait que, un, avoir un diplôme permet d'accéder à l'emploi et permet d'avoir un meilleur salaire, et en comparaison entre les différentes formations, ce qui compte, c'est évidemment le secteur d'activité vers lequel on se dirige. Et bien sûr, en France, les rémunérations sont quand même très largement fixées par les secteurs d'activité et les employeurs.
Bien, il y a quelque chose qui est notable aussi, Stéphane Marchand, c'est quand même le syndrome des emplois surdiplômés. De plus en plus, par exemple, de chefs de rayon dans la grande distribution sont titulaires d'un bac plus 5, alors qu'auparavant, un bac plus 2, ça suffisait il y a quelques années. Et j'ai noté cette note de France Stratégie qui dit ceci: en France, la structure de l'emploi ne permet pas d'absorber l'afflux de diplômés du supérieur qui se reportent de facto sur des emplois moins qualifiés, ce qui évince, au bout du bout, les moins diplômés.
Alors effectivement, il n'y a pas dans cette entreprise de massification dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il y a le problème que tous les diplômes ne se valent pas.
Oui.
Vous avez des gens qui font bac plus 5 et qui trouvent des jobs pas du tout dignes, des bac plus 3 qui deviennent caissiers, et par conséquent... Reposez-moi la question.
Eh bien, vous savez quoi, on va prendre une pause, je vais vous la redire et puis on se retrouve dans quelques secondes. 19h29, vous restez avec nous, avec nos invités. Il y aura Emma aussi qui sera avec nous, étudiante en Master 1. Et puis Diane Charoueva qui est formatrice. On entend aussi vos témoignages pour parler de cette thématique des diplômes et des études chez les jeunes. À tout de suite. Et on poursuit ce soir le débat du Club des idées, toujours sur l'avenir des jeunes et la place des diplômes aujourd'hui pour trouver du travail. On en parle avec notre partenaire ce soir, Pour l'Écho, le magazine qui fait un dossier absolument formidable sur les jeunes diplômés à perpétuité. C'est une question évidemment avec un point d'interrogation. Et on est en ligne avec Emma, qui est étudiante en Master 1 de droit public à Assas. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Merci pour partager avec nous ce soir votre témoignage. Très intéressant, car vous dites, moi aussi je suis dans cette course au diplôme, dans cette course aux études, car vous dites que vous avez manqué d'orientation professionnelle, de bons conseils en somme pour être bien orienté. Et vous avez perdu, ajoutez-vous, un an d'études seulement parce que je ne me suis pas posé peut-être les bonnes questions.
En effet, alors moi, donc après le lycée, j'ai été acceptée à Dauphine. Donc j'ai rejoint les bancs de cette université en grande partie parce que c'était une formation sélective, mais j'avais pas eu vraiment d'informations sur les alternatives et les alternatives qui étaient moins sélectives. C'est-à-dire qu'on souvent dans les lycées, les bons lycées parisiens, on nous parle beaucoup des filières sélectives, mais très peu des alternatives. Oui. Et je pense que j'ai été orientée dans cette filière-là, qui était une excellente formation. Sauf qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était pas du tout là où je devais être, que j'étais pas du tout passionnée par ces études en économie. Et donc là, a commencé un combat un peu compliqué de réorientation.
Oui.
Je me suis trouvée toute seule à devoir réfléchir à ce que je voulais faire. Et d'un autre côté, toute seule à devoir me dire, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de se réorienter.
Oui.
On a le temps et on a les possibilités de trouver autre chose en cherchant, mais en cherchant seule.
Oui. C'est-à-dire que j'ai une question très simple à vous poser.
Oui.
Vous faites des études pour faire des études ou vous faites des études parce que ça correspond à une ambition et un choix au bout du bout professionnel ?
Alors, moi, j'ai l'ambition de passer mon cours administratif, oui. Donc de travailler dans la haute fonction publique. Donc, c'est pour moi intégré qu'il y a un cumul de formation. C'est-à-dire que je sais pertinemment qu'avec un bac plus 5, je ne parviendrai pas à intégrer la haute fonction publique, notamment parce que ça demande une préparation au concours. J'ambitionne cette profession-là. Mais par contre, pour ce qui est du droit, c'est différent, mais c'est pas si différent que ça, puisqu'on se rend compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a énormément de gens qui ont un bac plus 5 maintenant. Donc en fait, ça ne suffit plus. Et on demande maintenant dans les cabinets d'avocats des formations en plus, des diplômes universitaires supplémentaires, des LLM, beaucoup de diplômes étrangers. Donc en fait, on se rend compte que ça ne suffit plus.
Bien. Merci infiniment Emma pour votre témoignage. On va faire évidemment réagir nos invités. Merci à vous. Tom Chevalier, chercheur chargé de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste des questions de jeunesse en Europe. Peut-être une réaction. Et puis moi, j'ai complété le témoignage par une question. Qui est fautif ? Est-ce que c'est l'école ? Est-ce que c'est le système éducatif qui n'oriente pas suffisamment correctement les jeunes ? Et puis plus généralement, est-ce que notre système éducatif du supérieur est en adéquation avec le besoin des entreprises aujourd'hui ?
Alors, il y a beaucoup d'éléments dans votre question.
Vous avez 30 secondes.
Alors, le premier élément qui me fera rebondir sur le témoignage, c'est que l'enjeu ne se situe pas uniquement à la fin du secondaire et au moment de l'orientation et de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Parce qu'en fait, ce qu'on voit en France, c'est que justement, il y a un gros enjeu à ce moment-là, parce qu'une fois qu'on entre dans le marché, dans l'enseignement supérieur, c'est comme le TGV. On ne peut pas en descendre. Voilà, c'est une espèce de tunnel pendant quelques années. Il y a très peu de possibilités de passerelles entre les différentes formations.
Oui.
Il n'y a pas de possibilité de pause, d'entrée sur le marché du travail, on revient, ou une année sabbatique, etc., etc. Ce qui est le cas dans d'autres pays. Par exemple, dans les pays nordiques, c'est beaucoup plus des allers-retours, en fait, dans l'enseignement supérieur, puisque l'enseignement secondaire n'est pas considéré comme le prolongement du secondaire.
Oui. Et ça pose la question de la place de l'entreprise et de l'expérience de l'entreprise dans le cursus des études chez nous en France. Mais pour aller jusqu'au bout de la réflexion, est-ce que nos études sont en adéquation aujourd'hui avec le marché du travail ?
Alors ça, c'est ensuite un autre enjeu qui est l'enjeu de l'adéquation entre le système éducatif et le marché du travail. Et là, il y a différentes réponses qu'il est possible d'apporter, car les besoins, en fait, en termes de compétences, du point de vue des entreprises, peut être très différent. Par exemple, vous pouvez avoir un besoin de compétences qu'on appelle générales, c'est-à-dire des compétences de, vous savez bien, par exemple, rédiger, vous savez bien parler, vous savez bien compter en général. Voilà, ça, c'est des compétences très générales qui sont, par exemple, développées dans le système d'enseignement supérieur, dans quelle que soit la formation, par exemple, de sciences humaines. Et c'est des compétences qui sont demandées dans certains secteurs d'activité, par exemple, dans les services, parce que vous pouvez les réutiliser dans plein de secteurs différents.
Oui.
C'est complètement différent dans certains secteurs d'activité qui vont demander des compétences spécifiques, c'est-à-dire des compétences techniques.
Oui.
Et là, à cet égard, dans le système français, on est plutôt bon pour produire des compétences générales. Pour les compétences techniques, il faut un plus grand investissement des entreprises dans la formation, des curriculums, des formations. Et là, c'est pas forcément
on a toujours été le pays du savoir universel, même à l'école primaire, même dans le secondaire. Ça a toujours été le système éducatif français qui a été... vous voyez que le premier pas dans l'entreprise, c'est un stage de troisième qui dure une semaine. Et puis après, on ne croise plus l'entreprise quasiment jusqu'à la fin de ses études. J'ai une question à vous poser, François Serfati, professeur de sociologie à l'Université Paris-Saclay. Est-ce qu'en France, on a quand même, pardon de ma question un peu naïve, mais on a quand même ce tropisme de d'abord regarder les diplômes sur le CV avant de regarder l'individu qu'on a en face de soi ?
Alors vous avez raison, d'une certaine manière, en effet, la France reste un pays extrêmement structuré par les diplômes. Et d'ailleurs, n'importe quel de vos auditeurs, n'importe quelle personne qui nous écoute, sait très bien quel est le titre de chacun des présidents de la République successifs. On est passionné par les diplômes dans cette société du diplôme. Et les recruteurs se comportent pas différemment de vos auditeurs, cherchent à savoir quel est le diplôme des personnes qu'ils ont en face d'eux au moment du recrutement.
Oui.
Ceci dit, à la question « faut-il adapter les études au marché du travail ?», qui paraît une question de bon sens, bien sûr, c'est une question qui est en fait plus compliquée qu'il n'y paraît, notamment parce que à quoi sert de faire des études ?
Les études, vous le disiez à l'instant, ça sert à la culture générale, ça sert à la connaissance universelle, mais ça sert évidemment aussi à l'insertion professionnelle, et puis ça sert à tenir son poste dans une entreprise.
Mais vous savez que, par exemple, j'ai vu une grande enquête de l'INSEE réalisée en 2019 pour Ouest France, qui nous apprend ceci. Un jeune sur deux estime aujourd'hui que ses études ne lui servent à rien sa recherche d'emploi. Et puis, il y a toute cette question autour des métiers en tension, vous savez, des métiers qui ne trouvent pas de salariés à embaucher parce que ces salariés ne sont pas formés en fonction des besoins. L'exemple, par exemple, de Xavier Niel est intéressant, qui a dû monter une école, l'école 42, parce qu'il dit qu'il ne trouvait pas les petits génies de l'informatique dont il avait besoin.
Alors, deux choses. D'abord, le point de départ, c'est que les entreprises savent très bien de quel type de main-d'œuvre elles ont besoin pour l'année en cours, pour l'année suivante, pour les 5 ans parfois. À 10 ans, elles sont absolument pas capables de savoir de quels bras elles ont besoin.
Oui.
La conséquence, c'est que si on adapte de trop près le système des études au système de l'emploi, alors on a un risque, c'est d'avoir des gens qui sont prêts à bosser tout de suite et qui ne seront pas adaptables demain. Donc c'est un point qui est central. La deuxième question, c'est, et même si on savait de quoi on avait besoin dans les 10 ans, comment on fait? Et est-ce qu'on suivrait ça? Si on prend l'exemple de la pandémie, je trouve qu'il y a un élément qui est passionnant. Ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on a des travaux sur l'hôpital public, qu'on a des travaux sur la médecine, qui montrent très bien qu'on manque terriblement de médecins, et on a continué à conserver ce numerus clausus. Et aujourd'hui, on a un besoin qui est plus criant, qui arrive en situation de crise.
Bien.
Enfin, si je termine pour donner des éléments plus précis sur ce que vous disiez sur la question, par exemple, de l'école 42, c'est un exemple qui est tout à fait intéressant. On est dans un secteur qui est tout à fait spécifique, qui est celui de l'informatique, qui est effectivement un secteur qui a tendance à absolument à recruter des quantités impressionnantes de main-d'œuvre.
Oui.
Le seul truc, c'est quand on voit les moyens de l'école 42 en termes de matériel, par exemple, fournis aux élèves pour apprendre, on voit bien qu'ils sont dans une proportion bien plus importante qu'on ce que peut observer dans un BTS informatique, dans un DUT informatique. Et ce qui fait qu'évidemment, ce genre de formations sont multipliées.
François,
pour faire face aux besoins.
Sarfati, je voudrais qu'on avance parce que je voudrais vous faire partager, juste avant de marquer une nouvelle pause, un témoignage très fort de l'ancien PDG de Nestlé, qu'il a été entre 1997 et 2008, qu'on a reçu à ce micro il y a peu de temps, qui s'appelle Peter Brabeck. Écoutez ce qu'il dit, c'est fort intéressant.
C'était toujours le système qui m'a rejeté. Ils sont toujours dit je ne suis pas apte. Mais j'ai toujours trouvé quelqu'un qui était dans la ligne, le responsable direct. Il m'a dit, non, mais on va vous quand même donner une opportunité, même si ça veut dire que vous devrez être prêt de commencer le plus bas de l'échelle.
Il était vendeur de glace. Il a rencontré le DRH de Nestlé, qui ne voulait pas lui filer de job. Et puis finalement, il a rencontré N+1, qui l'a embauché comme ça, parce qu'il l'a trouvé sympathique. Il a fini PDG de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est encore possible de nos jours, Stéphane Marchand?
Alors, j'espère que c'est encore possible. Mais en France, c'est dans un système assez figé. On est assez figé. Les élites sont très petites. Elles ont vocation et elles ont la volonté d'être petites. Et la massification dont on parlait tout à l'heure fait que ce que vous dites là, ça passait dans les années 60.
Oui.
Mais aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer. Et puis, il faut dire que les entreprises françaises, elles demandent des gens qui sont formés.
Oui.
Les entreprises américaines ou anglo-saxonnes sont beaucoup plus dans l'idée d'accepter quelqu'un qui n'aurait pas exactement le diplôme nécessaire, mais qu'elle s'engage à former ensuite. Alors qu'en France, il faut que les gens soient...
Oui.
Sur étagère, prêt à fonctionner tout de suite.
Alors, je vous ai passé cet extrait sonore parce que je voudrais que dans quelques secondes, on parle aussi de l'apprentissage, avec des systèmes autour de nous qui sont fort intéressants, notamment la Suisse par exemple. Restez avec nous, à tout de suite. 19h44, on continue de parler dans le grand débat du Club des Idées de l'avenir des jeunes et notamment de la place des diplômes aujourd'hui dans la société pour les jeunes. Les diplômes sont-ils un gage pour trouver un bon boulot? Alors, je le disais, je voudrais qu'on parle un petit moment de l'apprentissage. Pourquoi? Eh bien parce qu'en France, ça fait des années et des années qu'on nous dit, attention, on va valoriser l'apprentissage et que ça reste, pardon de le dire, aujourd'hui encore, une filière qui est mal perçu par beaucoup de parents, par beaucoup de Français. Écoutez par exemple Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale, c'était il y a 15 ans maintenant.
Vous pouvez être pilote de ligne, être aide-soignante, travailler dans la banque. C'est une voie d'excellence pour les métiers. Et les entreprises préfèrent des gens qui ont fait une formation et théorique et pratique. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de lubie française. Il faut faire 10 ans d'études littéraires. C'est formidable qu'il faut des agrégés de grammaire, mais pas que ça.
Voilà. C'était il y a 15 ans. On a remonté les archives. On pourrait à peu près trouver le même extrait sonore de différents ministres, hein, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Depuis 15 ans, ils disent à peu près la même chose. Tom Chevalier, il faut revaloriser l'apprentissage. Et pourquoi on n'y arrive pas en France ?
Alors, d'abord, donc là, oui, l'apprentissage est assez efficace pour lutter contre le chômage des jeunes, hein, puisqu'il permet une entrée plus aisée et plus rapide sur le marché du travail, puisque ça répond davantage aux besoins des entreprises.
Oui. Mais pas que, si vous me permettez, en préambule. Je regardais par exemple le modèle suisse, qui offre la possibilité aux jeunes en fin de cursus classique, relativement tôt, de choisir une formation professionnelle ou de poursuivre. En combinant des cours et 4 jours par semaine en entreprise, avec un cursus très concret, ça dure entre 2 et 4 ans. Et à l'issue, le jeune peut soit intégrer le marché de l'emploi directement, ou soit repartir sur des études supérieures. Formidable ! Pourquoi ça n'existe pas ça en France ?
Le système fonctionne de façon totalement différente. Dans les pays où l'apprentissage est très important, donc par exemple la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, ce sont des pays qu'on appelle traditionnellement des systèmes éducatifs tripartites. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une sélection très précoce des jeunes, autour souvent de 10-12 ans, et on les oriente ensuite dans des écoles différentes, y compris donc la formation professionnelle et l'apprentissage.
Mais ensuite, il y a des passerelles pour revenir.
Ça dépend des pays, et c'est aussi des possibilités qui ont été créées au fur et à mesure, justement, pour accompagner les besoins de montée en compétences, qui fait que les compétences promues par l'enseignement supérieur étaient demandées de plus en plus, à la fois par la population et les entreprises. Donc les passerelles ont été créées, mais à l'origine, elles n'existaient pas. En France, il n'y a pas cette orientation précoce. C'est un autre système qui a été choisi, qui était le collège unique, les systèmes uniques, en fait, comme on a dans la plupart des pays, oui, en réalité. Oui. Et donc, dans ces systèmes-là, l'apprentissage est beaucoup moins important. On passe plutôt par le système général, en fait, oui, classique.
Mais ça donne des réussites absolument incroyables. J'en cite quelques-uns. Sergio Ermotti, PDG du BS, qui a commencé comme apprenti, c'est un Suisse. Gerhard Schröder, en Allemagne, parce que le système est un peu similaire. Ancien chancelier d'Allemagne. Orphelin de guerre, qui a commencé chez un cacaillier. Il a quitté l'école à 14 ans, il devient chancelier. Jean-Claude Bourrelli, alors ça c'est l'exception française, PDG de Bricorama, qui a commencé dans une boulangerie comme apprenti à 14 ans et qui a donc fini PDG. Mais c'est vrai, aujourd'hui encore, Stéphane Marchand, vous êtes directeur et rédacteur en chef du Média pour l'Écho, aujourd'hui encore, on dit aux gamins, fais gaffe, si tu travailles pas bien, tu vas finir en apprentissage.
Alors c'est vrai que c'est assez mal vu. Et pourtant, l'année dernière est une grande année. 2020, je crois, est une très bonne année pour l'apprentissage, avec des aides gouvernementales. Il y a eu 495 000 nouveaux contrats qui ont été signés, entre le plus souvent des instituts de formation et des entreprises. Donc les entreprises, là, ont joué le jeu.
Oui.
Mais le problème, c'est l'éducation nationale. Effectivement, on est dans un système de collège unique. Et comme vous le disiez très bien à Tom Chevalier tout à l'heure, c'est pas une ambiance dans laquelle on va faire de la customisation élève par élève. Et on va surtout pas faire la sélection qu'il faut faire. Le pire, c'est de faire la sélection trop tard. Le pire, c'est de faire l'orientation trop tard. Vous mentez aux jeunes en leur donnant un diplôme et un an plus tard, ils sont dans la rue. Il faut mieux leur dire la vérité 3 ans plus tôt,
oui,
et leur montrer que l'apprentissage, par exemple, ou toute autre forme de travail de ce genre, eh bien, c'est une voie tout à fait respectable et tout à fait profitable.
Mais plus que ça même, on peut dire que c'est une voie d'excellence. Quand on va aux États-Unis par exemple et qu'on regarde le cursus pour devenir charpentier, les charpentiers sont des héros aux États-Unis. Enfin, j'en rajoute un petit peu, mais voyez ce que je veux dire. Ce sont des métiers très nobles. En France aujourd'hui, on a quand même toujours tendance à dire que les métiers manuels sont des sous-métiers ou dévalorisés. Vous êtes d'accord quand même sur le constat, Tom Chevalier ?
Bien sûr, mais après, il faut voir d'un point de vue plus macro la structure de l'emploi. Tous les métiers traditionnellement couverts par l'apprentissage, il ne faut pas oublier que ce sont des métiers qui potentiellement ne sont pas les métiers les plus en expansion dans le marché du travail. Les métiers les plus en expansion aujourd'hui dans le marché du travail, c'est dans le secteur des services.
Oui.
Et dans le secteur des services, traditionnellement, il est très mal couvert par l'apprentissage. Et c'est ça, en fait, qui pose un enjeu sur l'apprentissage. Quand on promeut donc les qualités de l'apprentissage, on regarde souvent vers le passé. Quand on pense à l'avenir, en réalité, l'apprentissage pose de gros enjeux parce qu'il concerne donc des secteurs qui sont en réalité... qui diminue en fait dans la structure de l'emploi. Et c'est ce qu'on voit par exemple en Allemagne, qui traditionnellement a une filière d'apprentissage très très importante.
Oui.
On a de moins en moins d'étudiants qui poursuivent leurs études en apprentissage et donc cette filière est remplacée progressivement, en, oui, réalité, par les filières d'enseignement technique dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les équivalents en fait des IET,
oui,
des IUT.
Oui.
Voilà, donc une filière très technique qui permet de créer donc des compétences spécifiques, ce que faisait l'apprentissage traditionnellement, mais à des niveaux plus élevés malgré tout, car passant par l'enseignement supérieur.
Bien.
Voilà, et donc en Allemagne, c'est ce qu'on voit, c'est en fait là, le déclin de l'apprentissage et le développement de ce type de filière-là.
Alors, on est en ligne justement avec Delphine Novaki, responsable ressources humaines chez Boulanger. Bonsoir, madame.
Bonsoir monsieur.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors cette année, le groupe Boulanger a lancé une nouvelle action, 1000 jeunes, 1000 solutions. Vous avez recruté depuis septembre 900 personnes en alternance, je crois, c'est cela ?
C'est tout à fait ça.
Bien. Que pensez-vous de ce débat autour de la valorisation de l'apprentissage, justement ?
Alors moi, je vais reprendre les propos que vous teniez il y a juste un instant. Je pense effectivement, nous pensons chez Boulanger que l'alternance est une filière d'excellence. Ça donne l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas forcément de master, c'est-à-dire que nous, on recrute des alternants qui vont du bac pro jusqu'au master. Et bien souvent, on fait des recrutements sans CV pour donner la chance à chacun. C'est une formidable opportunité d'allier à la fois la partie théorique à la partie pratique. Et ça donne une opportunité pour le jeune d'avoir un pied dans l'entreprise et de se confronter au monde du travail et d'avoir une expérience. Souvent, quand les jeunes sortent d'études, on leur oppose le manque d'expérience. Quand le jeune a fait ses études en alternance, il peut déjà manifester d'une certaine expérience pratique dans une entreprise.
Bien. Et sinon, quand vous recrutez chez Boulanger, dites-moi, quand vous recevez un CV, est-ce que vous regardez aussi l'individu qui est en face de vous, la volonté, l'envie? Ou vous regardez juste les diplômes ?
Alors, on regarde en premier la volonté, l'individu, l'envie. C'est-à-dire qu'on est sur des métiers, bien sûr on a des métiers d'expertise et technique, mais on est aussi sur une grande majorité de métiers que l'on peut apprendre et donc on peut former les collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise. Oui. Donc la première chose qu'on regarde, c'est l'envie, la motivation et l'engagement du jeune qu'on a face à nous.
Bien, et on vous souhaite de continuer, vraiment, c'est important pour la jeunesse. Merci infiniment, Madame Novacki, pour ce témoignage, responsable des ressources humaines, donc chez Boulanger. Stéphane Marchand, il y a une question qui me vient, là, parce qu'on parle de Boulanger, donc je pensais aussi au site de e-commerce et à toute cette nouvelle économie. C'est intéressant d'ailleurs de noter que souvent, ce sont ces nouvelles entreprises qui donnent leur chance à des jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont un savoir-faire, qui ont du talent dans leurs doigts, celui d'être programmateur, d'être un petit roi de l'informatique.
Il y a ce secteur d'activité qui est globalement le numérique et qui est extrêmement demandeur de talents et de talents de toutes sortes. Mmh. Des petits talents, des grands talents d'ingénieurs, des grands talents de data scientist. On est précisément dans le service, là, qui est l'industrie d'avenir et qui, elle, ne va pas attendre que l'État crée une filière d'apprentis. Elle va créer la filière d'apprentis toute seule. Et elle va même créer plusieurs filières d'apprentis. Donc, c'est un peu ça. Quand il y a un besoin extrêmement fort de ressources humaines, les entreprises prennent les choses en main. Vous parliez tout à l'heure de l'école 42, c'est un cas typique. On n'a pas les gens qu'il nous faut, on va former les gens qu'il nous faut. Évidemment, dans les filières qui sont plus en déclin, c'est beaucoup plus difficile. Et les apprentis sont une technique de mise des jeunes sur le marché du travail qui doit être améliorée, modernisée et, comme le disait très bien Tom Chevalier, tourner vers l'avenir.
Bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci infiniment d'avoir participé à cette discussion. Vous reviendrez, Tom Chevalier, j'espère, parce que vous avez encore plein de choses à dire. C'est ce que vous me disiez pendant la coupure pub. Merci à vous. Merci Stéphane Marchand. Merci François Sarfati. Je rappelle le magazine à découvrir dans les kiosques en ce mois d'avril. Pour l'écho, pour agir, l'économie compte, génération Covid. C'est le titre du dossier. Les jeunes diplômés à perpétuité. Merci à vous.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, dans quelques secondes, la suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives du jour. 3 minutes pour comprendre. Et ce soir, on reviendra sur la disparition d'une grande dame, Simone de Beauvoir, en 1986. À tout de suite. Le Club des idées suite avec les archives, comme chaque soir à cette heure-ci. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir, Nicolas Carreau.
Bonsoir.
Alors, avec vous, ce soir, on revient 35 ans en arrière. Le jour où Simone de Beauvoir disparaissait. Retour, évidemment, sur un destin de femme exceptionnel.
Et il y avait du monde le jour de ses funérailles en 1986. Elle a marqué en France, mais pas seulement. C'était le temps où les intellectuels français avaient une aura internationale. Écoutez cette archive. Dans la foule, Jean-Louis Sauvant, le journaliste d'Europe 1, tend son micro à une femme.
Je suis allemande et je suis venue exprès pour l'enterrement de Simone de Beauvoir. Je la connais bien par ses livres, mais c'est surtout en tant que femme que je l'apprécie. Moi, je suis professeure. Je la lis avec mes élèves. Je la fais connaître à mes élèves.
Oui, Simone de Beauvoir, c'était une aura internationale pour une vie militante et littéraire qui a commencé tôt.
Elle naît en 1908 à Paris dans une famille bourgeoise. Son père est avocat, mais il lui souhaite d'écrire parce que pour lui, écrivain est le plus beau métier du monde. Ça tombe bien, elle hésite entre lettres et philosophie. Finalement, elle se décide pour des études de lettres d'abord, mathématiques et enfin la philosophie. Agrégée, elle devient professeure et c'est à ce moment-là, fin des années 20, qu'elle rencontre d'autres intellectuels comme Sartre. C'est à ce moment-là aussi qu'elle est surnommée le Castor, d'ailleurs, à cause de son nom, Beauvoir, qui ressemble à Beaver, Castor en anglais. C'est avec Sartre et les autres qu'elle fondera les Temps modernes en 1945 et développera l'existentialisme. Elle obtient le Goncourt en 1954 pour son roman Les Mandarins, mais on la connaît surtout, bien sûr, pour son engagement politique, un engagement y compris de terrain, comme en 1970 quand elle est arrêtée avec Jean-Paul Sartre pour avoir distribué le journal de la cause du peuple.
Après l'alcommissariat, ils ne voulaient pas faire après ça. Ils ont dit à Jean-Paul Sartre, vous êtes libre. Alors Sartre est ressorti, il avait les causes du peuple, il a recommencé à les distribuer. Alors on l'a fait rentrer. Nous avons dit que nous restions avec les autres. Du coup, ils sont décidés, après beaucoup de tergiversations, à relâcher tout le monde.
Et vous n'êtes pas étonné de cette impunité que vous avez
Je crois que ça les emmerderait beaucoup d'arrêter un prix Nobel.
Mais là aussi, Simone de Beauvoir est surtout marquée la cause des femmes, évidemment.
Bien sûr, on pense à son grand livre, Le deuxième sexe, et on se dit que quand même, la situation a évolué depuis. Écoutez cette archive de 71, elle prenait la défense des filles mères.
Étant donné qu'elles sont mères, elles estiment qu'elles ont le droit d'être émancipées. Or, une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents. Elles réclament aussi de ne pas être chassées des établissements d'État, des lycées, des collèges, lorsqu'elles sont enceintes, parce qu'aucune loi n'autorise les chefs d'établissement à chasser des jeunes femmes enceintes. Et elles réclament ensuite, une fois qu'elles sont mères et qu'elles ont la charge de leur enfant, d'obtenir un salaire qui soit au moins égal au SMIG, puisqu'elles rendent service au pays en élevant des enfants, que d'ailleurs on ne leur permet pas d'éviter, puisque l'avortement, même dans des conditions pareilles, quand ce sont des toutes jeunes femmes qui ne savent pas très bien ce qu'elles ont fait, est interdit.
Oui, c'est un combat qui résonne avec MeToo.
Absolument, elle a été l'une des premières à partir en guerre contre le harcèlement sexuel et à en parler comme en 1985.
Je crois que c'est plutôt parce que les femmes osent davantage en parler. Parce qu'autrefois, aucune femme n'aurait osé dire « mon patron me pince les fesses », tout le monde aurait ri. Alors maintenant, eh bien, elles osent et personne ne rit plus. Et si vraiment c'est avéré que le patron fait ça avec trop de ses employés, il a un blâme, évidemment. Naturellement, tout ça, ça reste encore sur un plan de on dit, de bouche à oreille, puisqu'il n'y a pas de loi qui puisse les empêcher. Même s'il y avait une loi, ça serait très facile à tourner.
Et c'est justement pour ce combat-là qu'on la redécouvre aujourd'hui. Le deuxième sexe fait toujours partie des meilleures ventes.
Merci Nicolas Carreau pour ce récit, merci à vous. 19h59, dans quelques secondes, le rappel de l'info, Rémi Botsaron et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien, ce soir c'est une découverte, enfin même si les fins limiers de la musique l'ont déjà repéré depuis un petit moment, une jeune femme qui s'appelle Marion Brunetto et son excellent projet Requin Chagrin tout en guitare, je pense que ça va vous plaire.
Je ne puis pas faire comme si je décide.
Requin Chagrin, invité de musique, et comme le mercredi dans musique, c'est session acoustique ou presque. Bon, bah là, elle sera électrique, mais session, il y aura avec Requin Chagrin.
Génial, on sera au rendez-vous. Moi, de toute façon, tout ce que tu proposes, j'adore et j'adhère. A tout de suite, Émilie. Merci de votre fidélité. À demain, 18h.
Europe 1, Julien Bugier.